Mike, wind 250 degrees, 1 3 knots.
Clear.
River green. Descend.
Hey, salut, ça me fait plaisir de te retrouver sur un nouvel épisode de l'Expérience Shiban. Le podcast où nos invités te partagent leur parcours et leurs anecdotes dans une discussion technique et humaine entre passionnés d'aéro. Je m'appelle Sébastien et avec mon équipe, on espère que tu vas passer un moment instructif, divertissant et inspirant. Aujourd'hui, nous retrouvons un invité que tu reconnaîtras peut-être. En effet, il s'agit de David, qui est déjà venu nous parler de sa carrière de pilote de transport dans l'armée de l'air. C'était dans l'épisode 14, il y a plus de 6 mois déjà. Et oui, d'ailleurs, on tient à s'excuser, cette suite aurait dû arriver plus tôt, mais c'est comme ça. Et si tu n'as pas encore eu l'occasion d'écouter l'épisode précédent avec David, on t'invite à le faire avant de revenir écouter celui-ci. Une fois son contrat d'engagement terminé avec l'armée française, David a décidé d'aller à l'autre bout du monde, en Polynésie française, pour y faire de la ligne et de l'instruction sur Twin Otter et King Air. Un environnement très différent, avec ses plaisirs mais aussi ses difficultés associées. Aujourd'hui, dans une quête d'aller vers ce qu'on pourrait presque appeler une troisième carrière de pilote, notre invité est ensuite revenu pour faire du Boeing 737 cargo en Europe, comme Nicolas, invité de l'épisode 11. Aujourd'hui, on va donc parler principalement de vol en Polynésie sur Twin Otter et King Air, et un peu de 737 cargo en Europe. Tout ça grâce à David, notre invité de cet épisode 24 de l'Expérience Shiban. Alors bonjour David, merci beaucoup d'avoir accepté de revenir sur le podcast pour terminer cette interview.
Salut Seb, c'est toujours un plaisir et merci à toi de faire vivre ce podcast de cette façon.
Alors je remercie aussi toute l'équipe qu'il y a derrière, évidemment je suis pas tout seul, loin de là, mais merci. Alors, comme je le disais en introduction, l'épisode d'aujourd'hui va être orienté sur ce qu'on pourrait appeler ta seconde carrière, une carrière civile après une riche période de transporteur dans l'armée de l'air. En anticipation de ta reconversion vers le civil, tu as passé une qualification de type sur Boeing 737, en visant Europe Air Post à l'époque, mais c'est finalement chez Air Archipel que tu as posé tes valises pour voler sur Twin Otter, un avion que tu connais bien, et ensuite sur King Air. Alors ma première question, comment se prépare une reconversion et est-ce que l'armée t'apporte un soutien pour cette reconversion?
Alors, la reconversion, évidemment, ça se prépare, hein, puisque ce que tu vas faire dans le civil après une carrière militaire sera forcément différent. Donc, en fonction des affinités de chacun et des envies de chacun, il y a des choses à préparer. Il y existait à une époque des passerelles armée de l'air Air France. Enfin, quand je dis des passerelles, c'est-à-dire qu'il y avait une liste de pilotes inscrits dans l'armée de l'air et qui désirait faire Air France, et au fur et à mesure des convocations d'Air France, Air France était censée en appeler un certain nombre sur cette liste. Elle a été suspendue à l'époque de la crise, elle s'est rouverte il n'y a pas longtemps, elle s'est de nouveau suspendue avec le Covid. Et voilà, ça c'est en fait cette liste Air France, qu'on appelle ça dans l'armée de l'air, permet à l'armée de l'air de gérer les départs et à Air France de prendre des pilotes militaires, enfin d'accepter en sélection des pilotes militaires. Après, le reste, c'est tu dois te préparer toi-même. C'est-à-dire que enfin, moi, je suis d'une génération où la TPL n'était pas fournie lors de la formation initiale. Donc, il y a toute une génération de pilotes de mon époque qui a dû passer l'EPL ou la TPL et qui s'est ensuite payé son CPL hier. Maintenant, le cas se pose plus. Hein. Tous les pilotes sont CPL hier, ATPL théorique, et ont forcément un type rating sur une machine. Donc, ils sortent avec la TPL pratique également pour la plupart. En revanche, c'est à toi de te préparer dans le sens où si tu veux te payer une QT pour être prêt comme je l'ai fait, c'est à toi, c'est individuel. Hein. L'armée peut en financer une partie. Là, il y a ce qu'on appelle le congé de reconversion qui peut être transformé en aide à la reconversion. Sont des dossiers à monter, mais une QT peut facilement être financée à plus de 50% par l'armée de l'air si tu décides d'entreprendre une QT. Autrement, tu as beaucoup de stages d'aide à la reconversion, donc on te prépare au monde civil. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on est des jeunes bisounours, on est rentré dans l'armée à 18 ans, Le civil, c'est une nébuleuse qu'on ne connaît pas, qu'on n'appréhende pas. On a fortement tendance, et ça je l'ai découvert dans le civil, à se dévaloriser par rapport au civil, alors qu'on est hautement compétent. Mais on ne s'en rend pas compte, puisqu'on évolue avec nos avions dans notre petit monde. Mmh. Et donc, il faut qu'on apprenne à se vendre, puisque quand tu rentres à 18 ans dans l'armée, tu n'es pas prêt à te vendre un entretien d'embauche, tu n'en as jamais vu. On t'apprend quelques ficelles sur les réseaux, sur comment être le mieux préparé à un entretien d'embauche et à chercher du travail dans le monde civil. Et ensuite, tu as quelques aides à la reconversion. Par exemple, moi, ça m'a financé mon FI. C'est des choses comme ça. C'est assez vaste, hein. C'est-à-dire que c'est une aide à la reconversion. Si tu décides de faire une formation d'architecte, de plombier, de ce que tu veux, si ça rentre dans le cadre administratif, parce qu'il ne faut pas oublier que la reconversion n'est pas faite que pour les pilotes, hein. Chaque militaire doit se reconvertir, donc c'est vraiment un système global. Le pilote de char, il ne trouvera pas de char dans l'armée, dans le civil, donc il faudra bien qu'il se forme à quelque chose. Donc nous, pilotes, c'est déjà plus simple, puisqu'on a des qualifications qui sont transposables immédiatement dans le civil. Et les aides dont on peut bénéficier, je te dis, c'est pour des spécialisations type QT, FI, IR pour certains qui ne l'ont pas encore. Enfin voilà. Donc, moi, cette fin de carrière, donc, comme je te disais, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un d'Europe Air Post à l'époque, qui est devenu SLF, et avec qui je me suis très bien entendu, avec qui je faisais du bateau, qui m'a emmené voler avec lui sur des vols d'Europe Air Post, et je me suis dit, non, c'est ça que je veux faire plus tard. Enfin, c'est vraiment cette ambiance de travail. Je voulais rester, en fait, je ne savais pas encore, mais je voulais rester dans cette ambiance un peu familiale de petite compagnie. Tu connais pratiquement tous les pilotes, tu restes dans une ambiance francophone, ce qui est assez agréable quand même quand tu veux partager des choses. Hein. L'anglais, c'est bien, mais si tu n'es pas complètement bilingue, c'est plus compliqué de partager quelque chose avec ton binôme ou ton copie ou ton capitaine le soir à l'apéro. Voilà, je me suis dit, non, le travail en cargo de nuit me convient bien. Enfin, c'est quelque chose qui m'attire, contrairement à la ligne et aux passagers. Donc, il m'a dit, t'inquiète pas, d'ici la fin de l'année, si on continue sur ce rythme-là, on va recruter de nouveau et blabla. Donc, il m'a juste dit, la seule condition pour postuler chez nous, c'est la QT. Donc, je me suis dit, allez, je ne tente rien à rien. J'ai passé ma QT 37 pendant ma dernière année d'armée, hein, puisque j'avais décidé de partir à peu près à 40 ans. Hein. J'aurais pu rester plus, mais 40 ans, ça me paraissait le plus intelligent pour pas avoir un CV qui commence par vieux pilote de 48 ans. J'avais fait 20 ans d'armée, ça me paraissait le bon moment, en tout cas. Donc tout le process était lancé, hein, puisque c'était une demande de congé du personnel navigant qu'il fallait faire avant. Donc j'ai fait cette QT. Tout s'est bien passé. Évidemment, c'était en 2012. Et en 2012, j'ai essayé de faire ça en février-mars ou mars-avril 2012. Et en juin 2012, c'est devenu l'hécatombe, je crois. En tout cas, tous les projets d'Europe Air Post sont tombés à l'eau. Ils touchaient moins d'avions. A priori, c'est même sûr, partout dans le civil, ça commençait à se casser la gueule. C'était une période trop compliquée. Tous les CV que j'ai envoyés dans le monde entier... j'avais beau avoir des heures CS-25, Transal C-130 et une type rating en poche, personne ne m'a jamais répondu. Hein. Mm-hmm. Personne. Hein. Des Émirats aux compagnies françaises, évidemment, anglaises et compagnie, rien.
Oui.
Absolument rien. Ça a été, fin 2012, c'était catastrophique. Bon, et puis moi, mon échéance arrivait. Hein. De toute façon, j'avais commencé mes qualifs instructeurs. J'aurais été prêt à me reverser comme s'il y avait eu des besoins dans une école. Enfin, il fallait que je commence à avoir plusieurs cordes à mon arc. Mm-hmm. Et ben là, ça va être la suite d'une de tes questions, si je me rappelle. C'est comment je suis arrivé en Polynésie. Donc, voilà. La fin d'armée se termine avec une date de départ le 31 décembre 2012. Pour moi, un type rating en poche avec mon ATPLT pratique. Et une qualif FI instructeur, parce que ça, c'est vraiment une qualif à avoir. Tu peux la mettre à toutes les sauces et on a l'avantage, enfin, j'avais l'avantage en tant qu'ex-instructeur militaire de pouvoir faire un FI réduit de 15 jours, donc c'est assez pratique.
Ah, d'accord, je savais pas que ça existait cette option.
Si, si, mais c'est pour les anciens. En fait, il y a une passerelle pour ceux qui ont été instructeurs dans les écoles de l'armée de l'air. C'est-à-dire qu'il faut être passé par Avor, Salon, Cognac. Ou...
D'accord.
Là, tu as des équivalences pour pouvoir faire un FI réduit qui dure une quinzaine de jours.
D'accord.
Bon, voilà. Fin 2012, j'étais en pleine recherche d'emploi. je venais d'avoir 40 ans et on va dire que tout allait bien, mais j'étais pas le plus malheureux. Mais j'avais un petit stress sur l'avenir. Okay. Parce que ça, mon départ était acté par l'armée au 31 décembre.
Donc, si j'ai bien compris, toute cette préparation à la reconversion, tu l'as fait alors que tu es encore sous contrat à l'armée. C'est sur la fin du contrat, tu prépares la suite. Il n'y a pas de...
Voilà, et ça, je l'ai fait sur mes congés. C'est des choses... l'armée peut te financer des choses et te donne du temps si tu en as besoin, du temps, entre guillemets, alors que tu continues à être payé, à l'issue de ton départ. Enfin, officiellement, à l'issue de... Tu passes en congé de reconversion. Mais si tu veux commencer toute cette reconversion en amont de ta date officielle de départ, c'est sur ton temps libre. Mon PL, je l'ai passé sur mon temps libre. Cette QT, je l'ai fait sur des congés. Mon FI, je l'ai fait sur des congés.
D'accord.
Même si après, on m'en a remboursé une partie. Si j'avais voulu le faire sur des congés militaires, entre guillemets, ou sur du temps payé à être reconverti, à me reconvertir, j'aurais dû attaquer toute cette reconversion après le 31 décembre 2012, ce qui ne m'intéressait pas, puisque le but du jeu, c'était de trouver du travail tout de suite. Bon, c'est des choix personnels. Vraiment, chacun voit midi à sa porte.
D'accord. Donc, tout le monde ne fait pas forcément ça. Certains attendent la fin du contrat militaire pour commencer tout.
Tout à fait. Bon, il y en a peu, parce qu'il ne faut quand même pas être idiot. Quand tu arrêtes de travailler, tu as envie de retravailler tout de suite.
Ouais.
Mais c'est une option possible, ce congé de reconversion.
D'accord. OK. Et du coup, bah, comme tu le disais, c'est ma question suivante. Comment tu as trouvé ce job du coup sur Twin Otter aussi loin de chez toi, à l'autre bout du monde ?
Bah écoute, on est venu me chercher.
Ah, okay.
C'était beaucoup plus simple. En fait, j'ai reçu le... Bon, faut quand même savoir qu'en Polynésie, il y a beaucoup d'anciens militaires, puisque le Twin Otter est un avion civil, mais qui existe dans l'armée. Donc il y a quand même tout un réseau qui existait d'anciens pilotes de Twin Otter militaires qui sont partis en Polynésie. Et puis il y a tout un, ce qu'on appelle le réseau, t'as tout, tu te cooptes, les gens appellent les gens qu'ils aiment bien, et voilà. Donc en fait on m'a appelé le soir où je fêtais mon anniversaire, c'était une bonne nouvelle,
bon timing.
C'était pas le jour de mon anniversaire, mais c'était le soir où je le fêtais, pour me dire qu'une annonce était parue en Polynésie, recherche pilote de Twin Otter à compter du 1er janvier, instructeur souhaité et compagnie. Bon, c'était une compagnie où il y avait déjà des anciens de l'Anjou, mon premier escadron que je connaissais bien dans cette boîte, qui était le responsable formation. Celui qui m'avait écrit était lui chez Air Tahiti, pilote sur ATR, mais c'était mon premier instructeur multimoteur. Il m'a fait faire mon premier vol en Xingu dans l'armée. Donc tu vois, c'est des liens qui... C'est le côté sympa de l'armée, c'est que des liens de plus de 20 ans, ils sont toujours valides, quoi. Les gens t'oublient pas. Et on reste... Il y a une certaine fraternité militaire que tu retrouves... que tu es contente de retrouver quand tu as quitté l'armée, en fait. Celle-là, elle existe toujours entre ex-militaires, on va dire.
Génial.
Donc bref, on m'appelle, je réponds à l'annonce, je discute avec le directeur, les conditions me conviennent. C'est pour être initialement... pilote instructeur avec des perspectives de passer chef des opérations, enfin donc responsable des opérations, le DO, dans l'année. Puisque le DO actuel qui m'a recruté m'a dit, de toute façon, moi c'est prévu, je vais partir cet été et il faudra un remplaçant au sein de la compagnie. Donc tu as le profil, comme je bossais dans les opérations aussi dans l'armée. Enfin, j'avais le profil. Donc les perspectives étaient assez bonnes de carrière et... Dans cette compagnie, c'était un archipel. Donc après, il a fallu aussi en parler avec ma femme, parce que c'est quand même un grand chamboulement dans ta vie, l'expatriation. C'est souvent le cas chez tous les pilotes. C'est pas un cas unique, partir à l'autre bout du monde, mais parce que t'as un travail. Celui qui trinque, c'est celui qui suit, quelque part, parce que... Il en a un qui abandonne un job pour en trouver un autre, c'est toujours plus facile. Pendant que l'autre, il abandonne un job, c'est compliqué d'en trouver un. Enfin, en tout cas, au début, même si tout le monde s'en sort. Donc, c'est vraiment un choix, un travail d'équipe. Là, on part en couple comme ça, il faut être solide au départ pour tenir le choc de l'expatriation.
On a eu l'occasion d'en revenir un peu plus là-dessus un peu plus tard.
Voilà. Mais bon... Comme ma femme et moi, on avait déjà été en Polynésie, que c'était un endroit qui nous plaisait, on n'est pas parti complètement à l'inconnu, dans le sens où elle avait déjà vu la Polynésie. On s'était déjà posé la question, parce que je lui avais dit, si un jour je trouve du boulot ici, c'était il y a plus de 3 ans avant que ça n'arrive, Est-ce que tu nous imagines de ce cadre, puisque j'avais retrouvé mes amis de l'époque, hein, qui étaient d'anciens militaires lors des vacances. Et on avait dit oui, donc la décision était un peu plus simple à prendre dans le sens où elle connaissait l'endroit. Si on partait pas complètement à l'inconnu, on partait à l'inconnu dans le sens où professionnellement parlant, elle lâchait son boulot et elle allait devoir en retrouver un là-bas, sans chômage, sans rien, puisque c'est un territoire, hein, y a pas d'aide. Ils ont leur gouvernement, là-bas t'as pas d'impôts, mais t'as pas non plus d'aide, t'as pas de CAF, t'as pas de... Tout ce qu'on connaît ici, ça n'existe pas. Donc...
Ah d'accord, je savais pas du tout que c'était organisé différemment. Ouais.
Bah, c'est un territoire, ils ont leur loi, hein. T'es toujours aux 39 heures là-bas. Hein. C'est du copier-coller un peu de la réglementation française, mais s'ils veulent voter une loi leur est propre, ils la votent. Hein. Il y a que ce qui est régalien qui est géré par la France à 100%, c'est-à-dire justice, police, armée, les soins, non, c'est local.
D'accord, ah, intéressant, je savais pas.
Bah, voilà. Donc, ouais, non, c'est le principe des territoires, hein. Ils votent leur loi. Hein. Ils sont autonomes, quelque part. Donc voilà, ça a été banco. Donc je suis parti, donc j'ai quitté l'armée le 31 décembre et le 5 ou 6 janvier, j'étais dans l'avion pour Tahiti. Oh,
finalement, ça, t'as pas trop perdu de temps.
Non, ça va. J'ai eu le temps de récupérer les fêtes. Et je suis parti tout seul parce qu'il y avait toute une phase toute seule et il fallait que je prépare aussi l'arrivée de la famille derrière. Ma femme est restée encore 3 mois. Elle pouvait pas quitter son job comme ça. On avait un enfant qui avait 6 mois, il y avait quand même deux, trois choses à gérer. Donc moi, je suis parti tout seul là-bas et elle est restée toute seule à gérer les choses et le déménagement en France. C'est vraiment les compagnes qui ont le mauvais rôle à chaque fois, c'est rarement nous. Non, mais il ne faut pas l'oublier, il y en a beaucoup qui l'oublient.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du cadre dans lequel tu t'es installé du coup en Polynésie? Alors tu as dit que tu connaissais un petit peu, mais moi quand j'entends Tahiti, les Marquises, je pense à des îles paradisiaques, des longs moments à la plage, à faire de la plongée, du surf, à siroter des cocktails. Avant de parler de travail à proprement parler, comment était la vie là-bas, le quotidien? Est-ce que c'était agréable?
Alors faut être honnête. La vie en Polynésie, elle est douce. Elle est douce de par la gentillesse des habitants, de par le cadre de vie. C'est tout petit, c'est 200 000 habitants la Polynésie, hein, 220 000 avec les îles. C'est moins grand que Dijon, tu vois. T'es dans un village, les expatriés se connaissent tous, on va tous dans les mêmes endroits. Tout est à moins de 5 km de chez toi, puisque tout est regroupé entre Tahiti et Pudahouia, qui est la ville un peu, je vais pas dire bobo, mais la côte ouest est un peu plus huppée que la côte est, au niveau aspect, hein, pas forcément au niveau réalité. Et voilà, donc... Oui, c'est de la vie d'expat, c'est-à-dire que tous les soirs, tu peux être à la plage, tous les soirs, tu peux aller boire un coup dans tous les hôtels de luxe, c'est ce que tout le monde fait. Hein. Il y a peu de bars là-bas. Les enfants, ils sont ensemble toute la journée. C'est doux et les gens sont gentils. Il n'y a pas de racisme en Polynésie comme on peut en connaître à La Réunion ou en Martinique. C'est beaucoup plus... En fait, il n'y a pas de rengaine vis-à-vis du blanc, entre guillemets, puisque on les a jamais... Quand je dis « on », il n'y a jamais eu d'esclavage. Le blanc n'a jamais expatrié du polynésien dans un bateau avec des chaînes. Donc, il n'y a pas cette rancœur que tu peux trouver qui existe, hein, faut pas la nier, dans des îles comme la Martinique et la Réunion où l'histoire a fait que ce qui s'est fait dans le passé restera une cicatrice et reste marquant, même si les choses s'améliorent de jour en jour. Mais cette cicatrice, elle n'existe pas en Polynésie. Les seuls qui ont débarqué là-bas, c'est des curés. Ils ont cet état d'esprit, et tu te retrouves toutes les religions, et cette religion chrétienne différente entre les protestants, les adventistes. Tu vois, ils sont très élevés, ils ont été élevés dans l'état d'esprit, aimez-vous les uns les autres, et c'est resté, donc c'est plus doux. Après, il y a toujours une préférence familiale, mais c'est pas du racisme. C'est-à-dire que si tu concours pour un job ou si tu concours pour quelque chose, dans un pays de 200 000 habitants, tout le monde est cousin, c'est normal que tu penches plus vers la famille que vers celui qui arrive de France ou d'ailleurs, hein, mais voilà, c'est juste, on ferait pareil en France. C'est juste qu'en France, comme on est 60 millions, ça se voit pas, quoi.
Okay.
Non, mais c'est sûr, le réseau, la cooptation et aider les gens, ça a toujours existé. C'est plus marquant, je dirais, en Polynésie parce que c'est plus petit, mais c'est le jeu, hein, ça m'a pas empêché d'y arriver d'être là-bas. À compétences égales, ils privilégieront toujours quelqu'un du Fénois, du pays. Mais si la compétence est ailleurs, ils vont la chercher, ils n'ont pas de complexe avec ça.
Même ça paraît presque logique, parce que quelqu'un qui vient de très loin, peut-être qu'il pourrait avoir le mal du pays, rentrer chez lui.
Ben, c'est arrivé, la preuve, je suis parti, hein, j'ai recruté des gens qui sont partis. Voilà, c'est compliqué, l'expatriation. Hein. C'est quelque chose où le mal du pays, ça c'est une chose. Être loin de sa famille pose souvent un problème au bout d'un moment. Parce que tes parents vont avoir des problèmes de santé, tu vas avoir... bref, tu vas vouloir te rapprocher de tes parents ou de ton frère, de ta sœur, et quand t'es à 22 heures d'avion, bah c'est compliqué. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là, hein. Tu vis à La Réunion, tu rentres dans la nuit, tu vis à Tahiti, il te faut deux jours, quoi. Donc, ça n'aide pas. Je dirais que c'est les points noirs, hein. Il y a cette expatriation où t'es loin de chez toi. Il y a les gens qui, si tu veux évoluer au bout d'un moment, bah, ça reste des petites îles, l'évolution est... C'est dur d'évoluer dans le taf. Et un dernier point, c'est les enfants. Tant qu'ils sont en bas âge et que jusqu'au collège, lycée, ça va. Hein. De toute façon, c'est l'éducation nationale là-bas. Hein. Ça fait partie des principes régaliens. C'est pas où tu gères l'éducation. Ça reste l'éducation nationale. Et souvent, les gens partent parce que les enfants doivent rentrer en France et qu'ils les suivent pour les études supérieures. Quoi. Mais pour en revenir à ta première question, non, la vie est douce. La vie est... Tu vis en tongs, tout ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin, c'est d'un short et d'un t-shirt. Le McDo, il est au bord de la plage. Enfin, je veux dire, tout est facile. Il n'y a rien de compliqué dans la vie courante. C'est... La gentillesse des gens fait que c'est comme ça. Et puis, c'est simple. Le fait que tu aies peu de choses, tu es sur une île. Hein. Tu n'as pas Amazon, tu n'as pas... Les supermarchés ne sont pas aussi bien achalandés que chez nous. Donc, en fait, la vie est plus simple quelque part. Elle est certainement plus chère. D'un autre côté, maintenant que je suis rentré en Europe, quand je vois le prix de l'électricité pour me chauffer, le prix du gaz, le prix de l'essence, tous les 6 mois, il faut que je m'achète un blouson. Enfin, c'est des choses, c'est des dépenses que tu n'as pas là-bas. L'électricité est chère, mais elle sert à chauffer la piscine. Donc, à filtrer la piscine. Ouais. Je préfère ça que amener mon salon à 22 degrés.
Ok.
Voilà, tu n'as pas d'impôts que j'en ai ici. Je pense que s'il fallait tout mettre à plat, la vie serait encore un peu plus chère en Polynésie, mais faut pas oublier qu'ici, elle est très chère aussi. Hein. Et puis, tu fais comme tu fais 5 km, tu fais un plein par mois ici, j'en fais un par semaine. L'un dans l'autre, tu dépenses beaucoup d'argent dans tes loisirs, en fait, là-bas.
Oui, ok. Ce qui en soi est.
Loisirs, resto,
agréable.
Tout est très cher.
Ouais,
tout est très cher, mais ça prend des proportions. Importante là-bas.
Ok.
Mais bon, ça reste du loisir. Si tu le dépenses, ça reste des problèmes de riches, hein, donc c'est pas des problèmes. Non, mais c'est vrai. Faut pas oublier que souvent, faut pas oublier souvent que nos problèmes sont que des problèmes de riches.
Et vu qu'on a pas mal parlé du coup de l'expatriation, je voudrais juste terminer là-dessus. Est-ce que tu aurais des conseils pour des gens qui réfléchissent à faire pareil, qui ont trouvé un boulot à l'autre bout du monde et qui se demandent s'il faut y aller ou pas?
Alors, je dirais que toute expérience est bonne à prendre. Enfin, franchement, avec le recul, si tu risques pas de mettre ton couple en péril, je dirais que c'est plus ça le plus important. Hein. C'est ne pas mettre son couple en péril. L'expatriation, c'est une expérience enrichissante. Tu rencontres des nouvelles personnes, ton enfant, il va grandir différemment, je le vois. Hein. Il a fait 1 an à 7 ans là-bas. Il est grandi par sa culture et sa richesse. Ça l'a grandi quand je croise des enfants ici. Le fait qu'il ait voyagé, il n'y a rien à faire, hein, ça t'ouvre l'esprit. Hein. Ma femme, ça a été plus dur les 6 premiers mois, parce que c'est jamais évident, elle a tout lâché pour se retrouver en Polynésie. Au début, t'as beau être en Polynésie, si tu te retrouves au foyer alors que t'es une femme active, c'est très démoralisant. Tu te poses beaucoup de questions, c'est là où le couple doit être fort, et après la femme, c'est elle qui va se battre toute seule pour trouver du... Toujours pareil, hein. Toi tu vas aller voler et elle va chercher dans un pays nouveau, c'est elle qui va se débrouiller pour se loger, pour se loger en général, trouve ensemble, mais elle va devoir regérer tout le quotidien dans un environnement nouveau. Pendant que toi tu iras dormir à l'hôtel où tu seras payé à voler. Quoi. Donc une expatriation réussie, c'est un couple qui est conscient des difficultés qu'il va rencontrer, mais et voilà, c'est. Le job, nous, pilotes, il est toujours sympa. Hein. Voler, ça restera sympa. Mais voilà, le secret de l'expatriation, c'est bien se renseigner avant. Si déjà ton enfant, t'arrives à le placer dans des écoles sympas ou que pour lui, c'est enrichissant, c'est jackpot. Quoi. À partir du moment où il y a une forte communauté d'expats, tu passeras des moments sympas.
Okay.
Il y a beaucoup de réseaux hein, comme ça d'expatriés qui se créent. Nous, on était passé aussi par des réseaux d'expatriés. Et comme ça, déjà, les gens se connaissent un peu et se soutiennent beaucoup. Comme c'est particulier, l'expatriation, tu as toujours un réseau dans le pays dans lequel tu arrives avec un soutien de ceux qui sont arrivés précédemment, de femmes entre elles qui vont leur donner les tips pour les médecins, les inscriptions. C'est toutes ces petites choses galères sont totalement nouvelles. Tant t'inscrire à la Sécu au Vietnam, je ne l'ai jamais fait, mais ça doit être compliqué. Mmh. Non, mais c'est vrai.
Pas pareil qu'en France, en tout cas.
Ouais, mais on a eu, nous, la chance avec Tahiti de tomber dans un système francophone. C'est un territoire, mais c'est français, quoi. T'as une sécurité sociale locale. Enfin, il y a énormément de correspondances, donc il y a une partie des choses. On n'est pas tombé de haut. Au niveau médecine, c'est très bon, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui s'expatrient aussi là-bas pour payer moins d'impôts. Mmh. Ils travaillent moins et gagnent plus, donc enfin, forcément. Hein. Tout ça en étant le soir en train de siroter un cocktail à la marina. Non, mais l'expatriation dans ces pays-là, tu gagnes en qualité de vie. Après, voilà. Donc, une expatriation réussie en dehors du taf, hein, faut être sûr d'avoir les moyens de vivre son expatriation. Hein, parce que si tu pars à l'autre bout du monde pour gagner 1 500 € par mois, tu t'en sortiras pas. Donc, il faut que tu aies un niveau de vie confortable et un couple solide et qui en a beaucoup, beaucoup discuté avant. Et bien lister les points noirs, parce que c'est ta femme qui va tout prendre dans les dents. Hein. Mmh. Mais c'est forcément quelque chose qui va t'enrichir.
Ok.
Toi et ta famille.
Hein. Mmh. Oh, merci beaucoup pour tous ces petits conseils. J'espère que ça servira à ceux qui sont, celles et ceux qui sont dans cette situation, parce que à chaque crise, voilà, il y a pour trouver un travail, parfois, faut aller loin.
S'expatrier célibataire, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein, mais...
Ouais.
Ah, mais faut en profiter tant que t'es jeune. Après, tout est plus compliqué. Donc, plus tu peux le faire, mieux... enfin, plus tôt tu le fais, plus toi tu seras enrichi. Et voilà.
Ok. Bon, maintenant, je te propose de parler un peu plus d'aviation. À quoi ressemble l'aviation à Tahiti, aux Marquises, au-dessus de l'eau, quasi tout le temps à faire des sauts de puce, ou pas d'ailleurs, entre les différentes îles?
Bah, c'est une aviation différente, dans le sens où tu as trois types d'avions, enfin quatre types d'avions dans le ciel. Hein, c'est les ATR, un petit peu de Beach 1900, ça c'était la compagnie polaire, qui avait un avion. Air Archipel avec ses Beach 200, et c'est une hauteur qui font les Marquises et... Donc, tu as très peu d'avions dans le vol, très peu d'avions dans le ciel. Les vols sont différents. Hein. Air Tahiti, c'est que du passager à travers les îles sur des vols réguliers. Air Archipel, c'était très peu de vols réguliers avec le beach. Hein. Le beach et le tunauteur, au départ de Tahiti, c'était uniquement des vols vers les îles sur lesquels des aérodromes avec des pistes trop petites pour accepter la terre. Mmh. Donc, c'était... à Pataki et surtout Fangato. Enfin, je te parle de noms un peu exotiques, mais
je t'avoue que ça me dit pas grand chose là tout de suite, mais les locaux, non, les locaux reconnaîtront.
De mémoire, la Terre avait besoin d'une piste de 1200 mètres mini.
D'accord.
Et donc c'est tout. Il devait rester deux ou trois terrains avec des pistes de 1000 ou inférieures à 1000 mètres. Donc ça, c'était pour le compte d'Air Tahiti. Le tunauteur ou le Beach 200, on faisait des vols au départ de Tahiti, sur ces îles. Mmh. Et les Marquises, il y avait tout un réseau entre les quatre îles qui était organisé au nom d'Air Tahiti pour desservir en bout de chaîne, hein, comme on dit, les Wapo et Wauka. Puisque Air Tahiti avait une délégation de service public, hein, ils sont obligés de desservir toutes les îles. Mmh. À l'époque, les règles ont changé depuis l'année dernière. Mais voilà, donc la continuité, les ATR amenaient les passagers à Tuana ou Nuku'iwa, et le Twin Otter desservait Wapo ou Wauka et ramenait les passagers partants sur l'un des deux terrains. Grosso modo, l'ATR se posait le matin à Tuana où était basé le Twin Otter. Hein. Donc c'est à Tuana, c'est Iwawa, c'est l'île d'Iwawa, c'est là où est enterré Brel. Hein. Celle qui est entre guillemets la plus connue, c'est pas la plus grande, mais c'est la plus connue des Marquises, puisque c'est là où sont enterrés Brel et Gauguin. C'est là où débarquent les premiers bateaux lorsqu'ils font leur... traverser du Pacifique, donc c'est la plus, à mes yeux, c'est la plus sympa, quoi. Enfin,
ok.
Bon, bref, le Twin Otter est basé là-bas, on avait nos hangars, mécanos et compagnie. La TR se posait avec donc les passagers arrivant de Tahiti, hein, de Papeete.
Il y a combien de temps de vol à peu près pour aller aux Marquises depuis Papeete?
Il y a 750 nautiques, la TR il file dans les 240, il y a 3 bonnes heures.
Ok.
3 bonnes heures. Donc c'était un décollage vers 6h, arrivé 9h. Il y avait 30 minutes de décalage horaire avec les marquises.
Ok.
C'est rigolo, mais faut pas le... Il y a 30 minutes.
Ok, il faut le savoir.
T'es arrivé avec 30... Ouais, c'est un petit décalage, mais il existe. Donc t'as 30 minutes de moins. Donc t'es arrivé vers 8h30, local. Là, tous les passagers qui allaient continuer sur Atuana et Wapo montaient dans le Twin Otter. Donc nous, on desservait Atuana, Wauka et Wapo. Wauka, Wapo, les deux petites îles avec des petits terrains de 700 mètres. Mmh. On débarquait nos passagers en provenance de Tahiti. On embarquait ceux qui devaient partir à Tahiti. Et on finissait la tournée pour finir sur la quatrième île, Nuku'iwa, qui est la plus grande des îles et la capitale administrative. Et là, on finissait sur le terrain qui s'appelle Terre déserte. Il suffit d'aller voir les photos pour comprendre pourquoi. Non, mais il n'y a rien. Non, mais c'est tellement balayé par le vent et tellement sec que ce côté de l'île est à plus d'une heure de la ville. Mais c'est le seul endroit où ils ont trouvé pour pouvoir mettre une piste de plus de 1500 mètres.
Okay.
Donc, ça s'appelle Terre déserte. Et voilà. Et là, on retrouvait l'ATR qui lui avait fait un saut de puce à Atuana, Nuku'iwa, et lui repartait ensuite avec tous les passagers pour pas péter, quoi.
D'accord.
C'est tout un maillage était organisé pour qu'il ait systématiquement le point de rendez-vous avec l'ATR. Et on faisait nos échanges de passagers entre les arrivants et les partants.
Air Tahiti et Air Archipel sont deux entreprises totalement différentes qui collaborent ou c'est un peu la même compagnie?
Non, c'est. Je dirais qu'Air Archipel, si on peut définir, c'est la low cost d'Air Tahiti, quoi.
Okay.
Ça appartient complètement à Air Tahiti. C'est une entité à part, mais c'est comme Air France Transavia, quoi. Nous, on est là pour faire la petite aviation, entre guillemets, et couvrir les domaines que Air Tahiti ne couvrait pas, c'est-à-dire les petites îles, le VIP et les Evasan avec le beach.
Et j'ai vu récemment que ATR faisait des versions... un peu short take-off and landing, c'est justement pour pouvoir aller sur ces terrains-là sur lesquels Air Tahiti ne peut pas aller aujourd'hui ou ça n'a rien à voir?
Je crois que les premiers à avoir signé une lettre d'intéressement pour le stall de l'ATR 42, là, c'est Air Tahiti justement.
D'accord. Donc,
il y a une niche, il y a beaucoup de terrains dans le monde qui sont à moins de 1200 mètres et qui ont besoin d'avoir un stall qui emporte plus de 19 places. Donc ATR a créé cette version. A commencé à étudier, ils attendaient un certain nombre de clients, comment ils appellent ça,
lettres d'intéressement.
Voilà. Donc Air Tahiti a été les premiers à créer. Après, je pense pas que ça aboutisse vraiment, quoi.
Ok.
Enfin, ils préfèrent agrandir les pistes à Tahiti que de s'ennuyer à avoir deux types d'avions, un qui est stall et qui va créer des. Enfin, c'est de la complexité. Hein. Si t'as un avion stall, c'est des entraînements en plus, c'est un manex en plus, c'est certainement. Beaucoup de paperasse en plus. Et là, en ce moment, aux dernières nouvelles, ils préfèrent agrandir les pistes. Le stall aurait été intéressant sur des pistes comme non agrandissables, quoi, je veux dire. Et là-bas, il n'y a que Wapo et Wauka qui sont des terrains de montagne sur lesquels tu ne peux pas gagner sur le lagon pour agrandir une piste. Mmh. Mais c'est des terrains tellement spécifiques que même un ATR, je ne vois pas comment on peut y aller, quoi. Mmh. Enfin, avec la réglementation actuelle, ça me paraît techniquement compliqué, quoi. Ils y ont pensé, hein, mais mais je pense qu'ils n'ont pas pensé à tout. Ils ont réfléchi. Ça reste un terrain de montagne et avec des montagnes en face, donc stall ou pas stall, tu dois respecter des pentes, des aires de sécurité dans ta trajectoire de départ. Que techniquement parlant, autant envoyer un twin otter. Enfin, je veux dire, ça sert à rien de faire acheter un avion pour faire un terrain. Autant avoir un avion qui fasse plusieurs choses à la fois. Mmh. Mais voilà, la Polynésie, c'est du vol inter-île, c'est du vol avec des escales où c'est à l'ancienne, hein, tu fais des pleins avec des fûts, hein, donc les gens arrivent avec leur fût, tu fais ton plein au fût, hein, que tu sois un ATR ou un twin otter, il n'y a pas d'aérogare, c'est juste une paillote et tu enregistres avec une balance tes bagages, c'est des règles de sécurité qui sont forcément allégées, hein, puisque les terrains ils sont sur un atoll, il n'y a pas de... Non, et puis il n'y a pas toute cette contrainte et ces sécurités qui existent en Europe, même s'ils sont des terrains qui sont soumis à la réglementation ASA, ils ont également des travails sous dérogation. Tu ne peux pas avoir la même qualité de service sur un atoll à l'autre bout du monde, au milieu du Pacifique, avec 200 habitants. Et ça marche très bien, hein, et ça marche très bien, et c'est très convivial, c'est très... c'est à l'ancienne, quoi. Tout ce qui est embarquement, débarquement, il y a des règles, certes, mais il y a tout ce cadre, je vais pas dire folklorique, mais c'est toujours plus rigolo de faire un plein avec des fûts. t'as quand même des pompiers, hein, ça reste obligatoire, mais les regards, c'est... Il n'y a pas de portique de sécurité, t'as pas de fouille, t'as pas toutes ces choses-là, donc c'est sympa. Et puis t'es toujours au bord de l'eau, donc où que tu ailles, t'es au bord de l'eau, ou sur l'eau carrément. Parce que des fois, les pistes sont agrandies pour finir sur le lagon. Donc le paysage est féerique. Et tu te lasses pas de voler au-dessus de l'eau. Tu te lasses pas, c'est beau. Il n'y a pas d'autre peau, c'est beau. Les couleurs sont différentes, le ciel est différent, enfin, les couchers de soleil sont extraordinaires. Tu voles de lagon en lagon, il y a les îles hautes et les îles basses, hein, ce qu'ils appellent les îles hautes, c'est tout ce qui est sont les îles avec des montagneuses, hein. Les îles sous le vent. Donc, sous le vent, c'est Moorea, Waene, Raiatea, Bora, Maupiti. Les îles au vent, c'est Tahiti. Après, tu as tout ce qui est les Tuamotu, ça, ce sont des atolls, mais c'est plat de chez plat, hein. Ça fait le point culminant, c'est le cocotier à 10 mètres. Hein. Et puis ensuite, tu as les Marquises qui, où il n'y a pas d'atoll. Là, c'est vraiment des îles hautes qui se jettent dans la mer. Enfin, la montagne est dans la mer, c'est Jurassic Park. Hein. C'est extraordinaire, les Marquises. Au niveau paysage, c'est Jurassic Park. Et tu changes de monde.
Incroyable, ça donne envie.
Ah, ben les Marquises, il faut aller le voir une fois dans sa vie. Enfin, c'est quelque chose de... C'est majestueux. C'est difficilement descriptible.
Bon, on essaiera de trouver des belles photos pour illustrer ça sur l'illustration.
Ouais, je suis d'accord. C'est compliqué. Entre l'ambiance et les photos, tu vois, j'ai cherché des fois des photos pour montrer aux gens. Oui, c'est beau, mais l'ambiance, il y a une ambiance au Marquis qui est extraordinaire. C'est différent. Bon, c'est pas pour rien que Brel y a filmé sa vie, je pense. Et ensuite, tu as les Gambiers qui sont totalement à l'est de Tahiti. Ce sont les îles les plus lointaines, hein. Sont des îles hautes, là, c'est Mangareva, Limatara, ça doit être la même chose d'ailleurs. Là, c'est à 900 nautiques, c'est ce qu'il y a de plus loin. Et au sud, tu as les Australes, qui elles aussi sont des îles hautes, un peu plus froid. L'hiver, il fait 15 degrés. Mais c'est froid là-bas. Et voilà. Et toutes ces archipels, ça fait la taille de l'Europe. Donc, on les vole. Si tu superposes la Polynésie à l'Europe, eh ben, au niveau des élongations, on est pratiquement en même distance, quoi.
D'accord. Et tout ça couvert en ATR, du coup.
ATR, twin hauteur et beach. Bon, après, tu fais beaucoup d'escales, hein. Mais... Ouais. t'es toujours en train de chercher du pétrole et toujours en train de transporter du pétrole pour prévoir l'imprévu.
Ouais.
Parce que toutes les îles ne sont pas équipées de plots pétrole. Okay. On appelle des plots, c'est-à-dire que Tahiti a mis en place tout un maillage pour avoir des fûts de Jetawan un peu partout. Et après, c'est 3P qui est la TO locale là-bas, hein, qui forme les pilotes au CPLIR, à la TPL, qui a tous les avions d'aéroclub, qui fait de la voltige, une entité privée complètement. Mais eux, quand ils veulent faire des voyages pour trouver de la 100 LL, c'est plus compliqué. Donc ils mettent en place leur propre plot. Après, chacun est autonome. Tu commandes tes fûts et tu les amènes en bateau toi-même. Et tu as ta propre pompe à bord de l'avion, ta pompe Japy, pour faire tes pleins. Air Tahiti a mis en place son réseau dont il se sert pour lui. Maintenant, tous ceux qui veulent voyager, parce qu'il y a une compagnie aussi qui s'appelle... c'est pas une compagnie, c'est le Cercle du Soleil. Nous coûter pipi, c'est le Cercle du Soleil, tu sais, c'est la compagnie qui richissime au Canada, là, la compagnie du Cirque du Soleil.
Ah, je connais pas.
Si, c'est un multimilliardaire, là, et je sais plus le nom de l'ancien propriétaire. Bref, il a revendu le Cirque du Soleil, il a acheté un atoll à Nukutepipi, et il a refait un atoll, que des bungalows de luxe, mais pour arriver sur cet aérodrome, bah, il a acheté son twin hauteur. Donc, en fait, il a sa propre compagnie, si on veut, de privé, et c'est à lui de se débrouiller pour amener ses fûts, pour amener son pétrole, pour amener... Ça s'appelle Polaire. Ça s'appelle pas Polaire, ouais. Polaire est une autre compagnie. Ouais. Okay. Et il y a Van, enfin, qui a des avions. Van, c'est celui qui fait des perles, et qui, lui, sur ses atolls, a ses propres aérodromes privés. Donc, lui, il s'est acheté un Beach 1900 et pour pouvoir gérer son personnel. Et Polaire est une société qui exploite de temps en temps son avion pour...
D'accord, donc il n'y a pas tant d'acteurs que ça et une logistique assez compliquée, quoi.
Voilà, la logistique compliquée fait que tout est cher, tout devient plus cher. Ce ne sont que des niches, hein, donc avant de gagner de l'argent en Polynésie, il faut y aller, quoi. C'est pour ça que c'est très subventionné pour tout ce qui est Air Tahiti, parce que la délégation de services publics... Quand t'as 4 personnes dans l'avion qui ont besoin d'aller sur l'atoll, ça c'est pas rentable pour un ATR. Quoi.
Ouais, j'imagine.
Je suis déjà monté dans l'ATR pour faire un vol Marquise, on était 7 à bord.
Ok. Ouais, ça ressemble à des remplissages pendant le Covid en Europe, ça.
Ouais, mais le coût des billets est très cher. Les Polynésiens gagnent pas tous des 1000 et des 100, quoi. Mmh. Monter dans un avion, c'est pas donné, quoi. Mmh. C'est pas donné. Ben voilà, donc le tout est que ça reste une aéronautique sympa, agréable. Comme je te dis, il fait quand même souvent beau. Donc, et puis tu survoles des choses jolies et tu vas voir, t'emmènes des gens sympas et pour aller voir d'autres personnes sympas. Surtout que nous, le Twin Otter ou comme le Beach, ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais t'es le pilote et le copilote, c'est l'hôtesse de l'air. Donc tu côtoies les gens, t'as pas de porte dans le cockpit. Donc tu vis avec eux leurs émotions. Quand il y en a, comme à Wapo, quoi.
Et ben justement, ça m'amène à ma question suivante. Tu me disais qu'en volant dans le coin, il ne faut pas forcément être solide en IFR, mais il faut surtout être bon en maniabilité.
Ouais.
J'imagine que tu penses peut-être à des approches comme des terrains comme Wapo. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
Alors, Wapo est très, très particulier, mais je dirais qu'on en reviendra. Hein. Mais là-bas, tout terrain nécessite une bonne maîtrise de l'atterrissage par vent travers, par cisaillement de vent, et donc demande beaucoup de maniabilité, enfin demande de piloter un peu aux fesses, rapidement, mais tout simplement parce que t'es bercé par les vents, constamment, hein. Il y a des vents qui sont pas forcément forts, hein, 15 à 20 nœuds, mais qui sont jamais dans le bon axe, ils sont toujours, la piste est toujours sur les îles hautes à côté d'une montagne, donc tu vas avoir énormément de cisaillement, ou... de vent contraire ou de vent changeant, ou même sur les atolls les plus plats, hein, comme la piste est au milieu des cocotiers qui sont à 20 ou 30 mètres de haut, tu vas forcément avoir énormément de turbulences. Énormément de turbulences. Quoi que tu fasses, en Polynésie, tu commences vraiment à piloter dans les 200 derniers pieds. Quoi. Et ça laisse pas de place au doute. Quoi. Je veux dire, le vent est violent, enfin tu dois être très attentif, tu peux pas te permettre de continuer comme on peut voir en Europe, si t'es 200 pieds, t'es avion bien stabilisé et compensé, tu peux presque le laisser avec la bonne puissance et aller jusqu'à l'arrondi, t'as plus qu'à faire le retard. Hein. Là-bas, non, tu commences à te battre à partir de 200 pieds. Alors Wapo, on en reviendra, mais tu prends juste le terrain à côté de Tahiti, hein, Moorea. Moorea, quand il y a le vent du nord, le Maramu, là, qui... Non, le vent du sud, pardon. C'est l'inverse, là-bas. Le vent du sud, le Maramu qui souffle, tu te retrouves dans des cisaillements de vent et il faut y aller. Je veux dire, c'est pas. c'est la vie normale là-bas, quoi.
Mmh. Tu peux pas dire non, je déroute.
Non, c'est trop. De toute façon, ce sera pareil à côté, quoi. Tu peux. Mmh. Et régulièrement, tu remets les gaz parce que tu vas taper une dégueulante ou un cisaillement en très court. T'as pas le choix, faut remonter, quoi. Et tu te représentes. Mais j'ai rarement vu un terrain fermé à cause météo, à cause du vent. Quoi.
Okay.
Ensuite, l'IFR reste assez standard, hein, si ce n'est que c'est du... Bon, tout évolue vers la RNP, mais il y a encore beaucoup d'ADF, donc ça reste des procédures à l'ancienne, hein, mais elles sont assez simples à réaliser. Tu es tout seul dans le ciel, tu le fais en auto-info, parce que beaucoup de terrain, c'est juste un AFIS, donc il y a peu de terrain contrôlé à Tahiti. Hein. C'est beaucoup de l'AFIS ou rien du tout. Hein. Donc, descend, il y a des zones spéciales, hein, toutes les atolls, hein, tu as le droit de descendre jusqu'à 1500 pieds IMC. Et 1500 pieds, bah, si tu vois le terrain, tu poursuis sur ton approche à vue. Si tu vois pas le terrain, tu remets les gaz et tu reviens. Sachant que la météo est un facteur, il y a le vent, mais en période des pluies ou même le reste de l'année, hein, tu as beaucoup de grains et d'orages. Ça reste une zone au milieu de l'océan. Hein. Donc là, quand tu es dans les orages ou dans les grains, là, ça devient vite compliqué aussi. Quoi. Mmh. Mais là, c'est aussi l'avantage des îles, c'est que tu vas te mettre en attente quelque part et 20 minutes après, il est passé. Hein. C'est, t'es qu'un caillou au milieu de l'océan. T'as rarement un orage qui reste plus de deux jours au même endroit. Hein. Donc, ça se déplace beaucoup. Quoi. Quand t'as des lignes de grains, c'est plus compliqué à appréhender. Et là, tu peux être amené à te dérouter parce que t'as le grain qui est planté sur un terrain ou une ligne de grain. Et une fois que t'es réglé tes minima pétrole, bah, tu dégages. Quoi.
Il y a une bonne information météo dans le coin. C'est, tu peux compter sur la météo qu'on te donne.
Bah non.
Ok, ça aurait été trop simple sinon.
Alors, tout est adapté à la Polynésie, c'est-à-dire que le Centre Météo France émet comment ils appellent ça, des préavis de zone. En fait, ils ont découpé la Polynésie en plusieurs zones et ils te font un TAF de la zone. Alors, ce sont des zones qui vont couvrir assez large, hein. Mais tu as le droit, toi, de te baser réglementairement sur ces TAF de zone pour étudier ta météo en IFR, hein, parce qu'on est soumis aux mêmes règles. Hein. Il faut qu'une heure avant, une heure après, tu aies les minima sur ton dégagement, tu aies les minima blabla. Si ce n'est que tu as très peu de procédures, donc tu es souvent à vue, ou tu prends les procédures, tu commences à majorer les ADF là-bas, tu te retrouves très vite très haut. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a des, tu peux descendre jusqu'à 15 tempi en IMC sur certains terrains. En général, les atolls, hein, parce que tu sais que dans un rayon de 1000 km, à part un cocotier, tu ne vas rien rencontrer. Sinon, c'est toujours pareil, tu descends à la sécu sur les îles hautes, et puis tu descends dans le stack où tu procèdes, et pourtant, c'est toujours pareil, hein, tu as l'ADF qui s'est éloigné sur la mer, ça te permet de descendre, et tu reviens face à la piste. Pour pouvoir descendre à des minima souvent assez hauts, parce que bah, tu n'as pas de rampe d'approche, hein, rien que ça. Hein. Tahiti, t'as beau avoir un ILS, mais comme on n'a pas encore inventé les rampes d'approche flottantes, ouais, il faut 1600 mètres de visi pour percer, et par un gros grain plus tropical, t'es souvent à moins de 1000 mètres. Hein.
Pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est une rampe d'approche, est-ce que tu peux décrire très rapidement?
Alors en fait, une piste est précédée par des lumières, hein, plus ou moins fortes, ce qu'on appelle une rampe, et ce qui va guider le pilote vers la piste en fait. Et plus cette rampe est importante et lumineuse, on va dire plus elle est grande, hein. Je crois que c'est 780 mètres le maximum, ou 820, je ne sais plus. Et ben on va pouvoir baisser les minima, c'est-à-dire baisser l'altitude à laquelle l'avion doit décider s'il doit remettre les gaz ou pas. Donc quand il n'y en a pas, les minima sont forcés au plus haut en visibilité, hein, et aussi des fois en altitude. Et ben dans ces cas-là, ben, plus la météo est mauvaise, plus ça devient compliqué. La rampe est un guide pour le pilote.
Bon, bah merci pour l'explication.
Il suffit d'aller voir quelques vidéos sur YouTube d'avions qui percent par mauvaises conditions météo, et la première chose qu'on voit, c'est la rampe, c'est pas la piste. On voit à quel point elle peut être utile. Donc quand elle manque, et ben, pour ne pas prendre de risques pour nos passagers, l'aviation civile relève les minima, c'est toujours pareil. Hein. Plus on est loin du sol, moins on a de chances de faire de bêtises dans de mauvaises conditions. Quoi. Voilà.
Et alors, du coup, cette approche à WAPO?
Alors, cette approche à WAPO ne peut aller à WAPO que ceux qui sont qualifiés WAPO. Donc, à l'époque, on était quatre commandants de bord à pouvoir faire ça. Mmh. Elle est très, très particulière parce que tu rentres... j'ai jamais vécu ça. Hein, tu rentres dans une machine à laver, dans les 400 derniers pieds, dans laquelle la remise de gaz est interdite et impossible en dessous de 400 pieds. Et tu as trois vents contraires plus ou moins stabilisés, hein. Entre le début de piste, fin de piste et le col, parce qu'en fait tu passes un col, juste un col avant de toucher avant d'arriver au seuil, là, dans les 200 derniers pieds, tu passes un col et on a besoin du vent, ce qu'on appelle au col, c'est une sorte, enfin, c'est un col, hein, mais qui lui va générer le plus de turbulence. Tu vas avoir des rouleaux énormes et tu vas te lancer dans une machine à laver sur un terrain de montagne, c'est-à-dire c'est un terrain de montagne au niveau de la mer, mais tu finis avec une pente à 16% quand même, ce qui permet d'arrêter l'avion dans les derniers mètres, si vraiment tu as fait un atterrissage long.
Ah oui,
ouais,
16%, ok.
Mais la remise de gaz n'est pas possible en dessous de 400 pieds. Tu dois décider à 400 pieds si tu y vas ou pas en fonction des derniers vents qu'on t'a demandé, qu'on t'a communiqué. Hein. Tu es toujours en train de demander les trois vents. Malheureux, il y a des chiffres, il y a beaucoup d'expériences qui font que tu décides d'y aller ou pas y aller. Et une fois que tu as passé les 400 pieds, comme la remise de gaz n'est pas possible, c'est vraiment à partir de là que tu rentres dans la machine à laver. Bah là, tu es obligé de te battre pour y aller jusqu'au bout. Quoi. Mais quand je te dis te battre, le tunauteur est adapté. Tout autre avion est... Le CASA s'est déjà posé une fois. Hein. Je crois qu'ils ont dit qu'ils ne se reposeraient pas beaucoup là-bas. Non, mais il faut vraiment qu'il y ait du sauvetage de lui-même. Tu prends des risques. WAPO, ce n'est pas anodin. Quoi. L'avion, il se fait maltraiter. Et toi, tu es dedans, le pilote, tu es juste pour essayer, juste pour te débrouiller pour arrondir à peu près au-dessus de la piste. Si tu laisses faire, tu finis tranche en courte et pas au-dessus de la piste parce que le vent t'aura amené comme ça. Donc il faut un avion comme le Twin qui est très maniable, qui est un stall. C'est-à-dire que même si tu te poses trois quarts juste avant la pente à 16%, tu vas l'arrêter quand même. Mmh. Et pareil, qui sont à décollage court. Tu mets en puissance, tu vois pas le bout de piste hein, puisque tu as ce toboggan de 16% là. Et le stop arrêt a été calculé il y a des années d'une façon dont personne ne sait comment d'ailleurs. Moi je sais pas faire hein, calculer des distances de stop arrêt DV1 à DVR avec 16% de pente en descente. Non mais c'est vrai hein. Et j'ai cherché à l'époque où j'étais responsable des opérations l'étude initiale, personne n'a jamais retrouvé. Il y a un mec qui a dû signer une fois. Il y a un mec qui a dû signer une fois et ils ont dû dire tout à la poubelle, ça y est, c'est signé. Et ça a dû être signé dans les années 80, mais les gens avaient. Et puis ça marchait. Hein. Enfin, franchement, il n'y a jamais eu d'accident à WAPO à cause des perfos. Hein. Mm-hmm. L'accident qu'il y a eu, c'est un train qui s'est effacé suite à un atterrissage dur, je crois, mais c'était il y a 10-15 ans. Quoi.
Ok. Voilà, je regarde sur YouTube, il y a des vidéos sympas d'approche à WAPO, aéroport de Anéou, c'est ça?
Non, c'est WAPO, je sais pas. Oui, ça doit être le village à côté, mais tu prends le. Il y a une très bonne émission là, qui te résume vraiment tout Haïti et son ambiance, c'est Piloté dans les îles, là. Je vais te retrouver sur internet le nom de l'émission.
Ok, bon, on mettra un lien en description de l'épisode.
Pilote au paradis, un truc comme ça, et tu vois WAPO, et tu vois. Tu suis un pilote d'Air Tahiti à travers son travail. Tu suis un peu les avions du bout du monde. Voilà, c'est sur France 5. Ça s'appelle France 5, les avions du bout du monde. Et t'en as un qui est dédié aux Marquises. Et si tu tapes, toi, en ce moment-là, si tu tapes avion du bout du monde France 5, t'arrives sur un extrait de 3 minutes qui est un atterrissage à WAPO avec Teva.
Ah oui, oui.
Tu vois, là, t'as le.
J'ai ça sous les yeux.
Là, si tu le regardes, tu vas vite comprendre. Voilà. Donc, WAPO est un terrain particulier. On n'était que 4 qualifiés. C'est un terrain classifié montagne. Hein, donc, oui, tu as une petite fierté à faire ce terrain-là, d'y aller régulièrement, parce que WAPO, c'est pratiquement une fois par jour. Mm-hmm. Jusqu'à 4 fois par jour quand il y a les scolaires. Donc pendant... C'est un vol court, c'est répétitif, mais à chaque fois, c'est tellement challenging que... Tu te lasses pas. C'est pour ça qu'on pourrait dire les Marquises, on peut vite se lasser, mais non, enfin les Marquises comme la Polynésie, hein, à chaque fois c'est challenging, à chaque fois c'est joli. Là, je fais un réseau en Europe, je connais pratiquement tout par cœur déjà au bout de 2-3 ans sur à quel moment tu vas réduire, accélérer. Bien challenging, c'est si tu peux pas descendre au moment où tu veux, quoi. Si le contrôle te bloque, donc non, tu peux pas te lasser de. Tu te lasses pas. C'est pareil. Et chaque atterrissage est un vrai combat de pilote contre les éléments pour réussir à faire un atterrissage propre et que tes passagers soient en toute sécurité. Donc, tu te lasses pas de ça. Et non, je vous. WAPO et Wauka. Wauka, c'est pareil. C'est l'autre terrain des Marquises qui fait 700 mètres. Avec une approche très particulière parce que tu longes la montagne pour pouvoir venir te présenter en finale. Hein, donc, t'as le pull-up qui sonne toutes les 2 secondes. Mais tu le sais, ça fait partie de l'approche. Hein.
Ouais.
C'est du pull-up maîtrisé, on va dire. C'est toi qui met l'avion exponent, cette condition pour pouvoir. Et puis t'as pas le choix, tu suis la montagne.
Ouais, okay.
Si l'atterrissage est des fois tout aussi sportif au niveau mania, t'as pas de stress dans le sens où, comme la remise de gaz est face à la mer, il peut rien se passer.
Ouais.
Ça, je veux dire, même si tu te croûtes à latéraux, tu remets les gaz, tu refais un tour. Quoi. À WAPO, tu peux pas. C'est pas concevable. Donc il y a ce challenging qui est vraiment énorme parce que tu dois poser l'avion. Il n'y a pas de solution autre. Donc tu ne peux pas te rater. Quoi. C'est le seul terrain où je connais où tu ne peux pas te rater. Quoi. Après, il doit y avoir un ou deux terrains au Népal comme ça. Mais...
Mmh. Ouais, c'est des terrains d'exception en fait, à l'échelle mondiale.
Oui, voilà, ça fait partie des terrains, comme ils disent, les terrains les plus dangereux au monde. Mais c'est parce que tu n'as pas d'option. Tu n'as pas d'option, c'est poser ou rien.
Et là, en regardant la vidéo du coup de l'atterrissage à WAPO, je me suis toujours demandé le Twin Otter, les manettes au plafond. Est-ce que c'est vraiment pratique ou est-ce que tu te dis mais pourquoi ils ont mis ça là?
Alors ça, c'est la question classique. Alors pourquoi ils ont mis ça là? C'est lié à l'ergonomie de l'avion, quoi. C'est... Puis je pense que c'est parce que le Beaver, et le DHC2, je crois, il a un manche unique, donc tu peux balancer le manche à droite, à gauche, et tu sais, s'il y a un pivot central, l'axe est central. Tu ne peux pas mettre des manettes de gaz à cet endroit-là, puisque l'axe est central de pilotage. Tu n'as pas un manche, tu comprends ? C'est un axe central qui se divise en deux pour le tuneauteur. Chacun a son manche.
Donc il n'y a pas de place pour des manettes au milieu.
Non, donc, je pense que c'était le seul endroit. Hein. Et franchement, tu ne te poses même pas la question. C'est naturel.
Ok. Ça fait pas mal au bras.
Non. Franchement, tu pilotes pas toujours avec la main sur les gaz, mais c'est quelque chose qui se fait naturellement. Et tu passes de l'un à l'autre, comme je faisais moi les deux avions, hein, le Beach comme le Twin. Mm-hmm. Tu passes de l'un à l'autre sans problème. Ou au pire, ta main, quand tu montes dans le Beach après une semaine de Twin, elle va aller chercher au début la manette des gaz en haut. Et puis, de toute façon, si elle descend, elle va retomber sur les gaz. Et inversement, quand tu montes dans le tune après beaucoup de beach, tu comprends vite qu'il n'y a rien devant toi. Donc, naturellement, ça ne te demande pas d'exercice mental pour te dire tiens, la manette est en haut, la manette est en bas. Ça se fait naturellement dès que tu montes dans l'avion. Quoi. C'est comme ça et le pilote s'adapte aussi vite.
Hein. Ok. Et tu disais du coup que tu fais du tuneauteur et du King Air à peu près en même temps. Quelles étaient les différences entre les missions ? Le King Air, c'était plus pour des évacuations sanitaires ou même pas forcément ?
Alors, initialement, la bisqualification n'existait pas. On a réussi à mettre ça en place. Alors, c'était beaucoup de travail puisque tu passes d'un avion train sorti boulonné avec des manettes en haut à un autre qui non pressurisé, à un autre qui est train rentrant, qui monte au niveau 300 et qui est pressurisé, donc c'était beaucoup de travail avec la DGAC hein, pour mettre ça en place, parce que tout ce qui existe dans les réglementations, c'est que tu peux passer d'un 330 à un 350, mais c'est pas écrit que tu peux faire du Boeing et des Airbus en même temps en transport public. Mais bon, on a réussi à faire ça, donc je faisais également du King Air. Alors le beach était dédié aux Evasan, enfin il y avait un beach H24 dédié aux Evasan, un souvent en maintenance hein, suite à trois avions, et l'autre était dédié à tout ce qui est vol VIP sur Bora Bora essentiellement, ou Rayatea, parce que sachant que beaucoup les jets ne peuvent pas se poser à Bora, la piste est trop courte, il n'y a pas de douane, même si ça évolue aussi hein. À l'époque où j'y étais, tout VIP arrivait à Tahiti et devait ensuite prendre un avion local pour aller à Bora quoi.
Okay.
Donc il y a très peu de VIP qui acceptait d'attendre l'Air Tahiti dans la salle d'attente, donc en général on emmenait tous les VIP sur Bora, Rayatea, mais du beau hein. Enfin, on a déjà eu Johnny dans nos avions, on a déjà eu Seal, on a déjà eu tous ces gens
sympa.
On faisait aussi totalement différent, mais le Brando, t'as l'île de Marlon Brando là-bas, ils ont ouvert un hôtel de luxe hein, à Tetiaroa. Et ils ont créé leur compagnie aérienne également, hein, à l'époque avec des BN2. Et tant que toutes leurs opérations n'étaient pas en place, on faisait beaucoup de vols pour eux avec le tuneauteur, puisque la piste fait 700 mètres sur l'atoll de Tetiaroa. C'est un vol de 15 minutes. Hein. Mais là, on avait que du très beau monde. Quoi. C'est Catherine Deneuve, c'est tous ces gens, des joueurs de foot, enfin tous ces gens qui allaient profiter de la Polynésie. Hein, donc, et qui n'ont pas envie de prendre la TR avec tout le monde. Donc c'était le beach, on avait des beachs en version VIP, et tu faisais ces vols-là. Donc, c'était différent, mais tout aussi agréable. Mais après, ce qui est le plus motivant et le plus gratifiant, c'est les Vassan. Hein.
Ouais.
T'es toujours en train de voler, là t'as un réel but.
Et t'as une mission à accomplir, un peu comme voilà, quand t'étais à l'armée.
Oui, voilà, donc c'est très gratifiant. Et surtout qu'on volait beaucoup, puisque il y a un seul hôpital... réellement adapté enfin, au niveau pour tout ce qui est technique, scanner, opération et compagnie qui est sur Papété. Hein. Donc le SAMU rapatrie systématiquement. Donc, on faisait 450 Evasan par an, donc une et demie par jour. Quoi. Donc, pour des choses graves comme pas graves, hein, parce que des fois tu demandes au médecin mais pourquoi on est parti hein, il me fait mais. Le prochain ATR est dans 5 jours. Si on attend 5 jours, je suis obligé de l'amputer. Donc on le ramène. Là, c'est pas grave, mais si il n'est pas soigné aujourd'hui, parce qu'il doit y avoir 3-4 hôpitaux dans toutes les îles, il y a plus de 40 îles. Le reste, c'est des dispensaires, voire rien du tout. Mm-hmm. Et les gens sont juste formés pour répondre au SAMU et pouvoir faire une échelle de gravité afin que le SAMU déclenche ou pas l'avion. Quoi. Et une fois que l'avion est déclenché, 50% des aéroports sont éclairés la nuit et l'autre partie non. Donc tu décolles pour arriver au lever du soleil. Ou le SAMU, quand c'est vraiment une urgence vitale de nuit, c'est l'armée qui fait, quoi. Si le terrain n'est pas éclairé, c'est l'armée qui fait, quoi. Pour une urgence vitale engagée, mais bon, urgence vitale engagée, il faut quand même 2 à 3 heures pour activer tout le dispositif, quoi. Nous, on devait décoller en 45 minutes après l'appel du SAMU. Donc, c'était assez court, hein. L'avion était toujours prêt, les plans effectués, avec une équipe de piste dédiée H24 à ça et des pilotes à 45 minutes. Mais si tu fais un AVC à 3 heures de vol, bah, il faudra 3 heures et 45 minutes avant de voir un médecin.
Ouais, donc vaut mieux être en forme quand on est un peu loin de tout, quoi.
Ça fait partie de la Polynésie. Tu peux pas. Ça doit être la France. Tout le monde a le droit au même service. Et même en France, tu vois que certaines régions sont des déserts médicaux. Tu peux rien y faire, quoi. Tu peux pas et vivre à l'autre bout du monde et avoir le même service que celui qui vit en centre-ville, quoi. Mais donc, ce qui fait que ce sont des vols palpitants, parce que t'es une petite équipe, t'es deux pilotes avec le médecin et l'infirmière, donc tu passes ton temps à les aider, quoi. Donc, c'est des fois très glauque quand c'est des gens qui vont très mal, mais c'est toi qui tiens la perf quand ils sont en train de tuber sur le parking, quoi. Et ça arrive, hein, c'est de l'intubation sur le parking, ils t'appellent juste le camion pompier pour qu'il fasse de l'ombre, parce que c'est des actes médicaux très grave, pas grave, mais très technique et important, que tu fais dans des conditions, pas dire de guerre, mais de brousse.
Difficile.
Quoi. C'est de brousse, quoi. Parce que j'ai déjà vu des gamins se faire intuber sur un chariot bagage la nuit à 4h du matin à Bora, parce qu'il n'y avait pas le choix.
Ouais.
Ça fait partie du job. Donc c'est très prenant, c'est très motivant, tu fais partie à part entière de l'équipe médicale. Et en plus, t'es leur pilote, donc t'es à toi, ils te font une confiance, pas aveugle, mais sur les capacités à dire là on peut y aller, là on peut pas y aller, parce que la nuit, évidemment, il n'y a rien d'ouvert, il fait jamais beau, évidemment, et tu te retrouves sur des petits terrains à 2 heures de vol de Tahiti avec une percée ADF dans du 6 avec dans le vent, avec deux cunimbes, j'y vais pas, quoi.
Ah ouais, c'est des décisions pas faciles à prendre. Mais bon, t'as déjà été habitué à ce genre de choses.
Oui, alors le recul, l'expérience est très importante, hein, d'avoir beaucoup volé dans l'armée, d'avoir connu des situations compliquées t'aide à prendre des décisions. Et les commandants de bord d'Evasan à Tahiti, c'est loin d'être des manches. Hein. Enfin, ils sont habitués aux situations difficiles, compliquées et surtout à l'autonomie. Ce que t'apprends l'aéronautique en Polynésie, c'est l'autonomie. Tu es souvent tout seul face au but, quoi. Et tu te retrouves sur un atoll, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'internet, et tu dois te débrouiller pour être au plus près de la réglementation, pour être au plus près de respecter l'intégralité des textes auxquels tu es soumis, parce qu'il ne faut pas être idiot, hein, le DGAC est toujours là pour veiller. Et là-bas, ça s'appelle le SEAC, mais c'est la même boîte. Et donc non, commandant de bord en Polynésie, tu t'imposes à faire des choix et à être très, très autonome très vite.
Et alors, j'aimerais qu'on passe à un aspect peut-être un peu moins concret, en tout cas un peu moins sur les vols. Est-ce que tu as constaté une différence entre le travail de pilote dans le monde civil par rapport au monde militaire, dans la façon de travailler, de gérer les missions, mais aussi dans les relations avec les collègues de travail plutôt que des frères d'armes?
Ah, ça, c'est une question compliquée. Oui, forcément. non, mais il y a des différences. On a été formé pendant 20 ans à une façon de travailler très carrée, très militaire, en s'imposant des minima et une rigueur qui n'existe pas forcément dans le civil, quoi. Mais trouver dans le civil, alors j'ai trouvé plein de collègues sympas, hein. Les gens, quand tu les prends jeunes et que tu les formes un peu à ton image, hein, quand j'ai fait beaucoup de formations et tu les recrutes comme tu as envie d'avoir. Quand tu fais du recrutement, hein, c'est toi, tu as connu ça, hein, tu cherches des gens avec qui tu as envie de travailler. Donc, comme c'était moi qui faisais les recrutements à Tahiti, j'ai jamais été trop déçu par les recrutements que j'avais fait. Mais tu rencontres beaucoup de gens qui se croient les meilleurs pilotes du monde alors qu'ils n'ont rien fait dans leur vie, quoi. Et ça, catastrophe, quoi. Enfin, c'est une catastrophe. C'est plein de gens imbus de leur personne. C'est ce qui n'existe pas dans l'armée. On est très. C'est une école d'humilité. Et un pur produit civil qui a jamais pris de claque sur la tête pendant toute sa carrière, hein, c'est une catastrophe. Il a tout vu, il a tout fait. Il s'est posé 3 fois avec un OTAM avec la rampe HS, c'est le roi du monde. Quoi. Enfin, non, mais cette
chose. Je vois de quoi tu parles.
Et ces mecs t'expliquent comment voler, c'est ça qui est terrible, parce que pour eux, l'armée, c'est rien. Donc, voilà, la grosse différence, même pas une histoire de frère d'armes, je me suis fait des très bons amis civils. C'est vraiment l'état d'esprit des gens. T'as pas besoin de l'armée, t'as cette fraternité qui existera toujours, mais tu peux trouver d'aussi bonnes personnes dans le civil, mais t'as une tripotée de gens qui ont des égos démesurés parce qu'ils pilotent un avion, c'est impressionnant. Alors qu'ils ont fait que A à B toute leur vie au pilote automatique, et trois fois, ça a fait windshield, ils ont fait pull-up et... mec, ils ont jamais volé à 500 pieds de nuit, tout feu éteint, enfin... Ils ont jamais rien fait avec un avion qui soit exceptionnel. L'avantage est là, la SLB, c'est donc là où je travaille en Belgique, c'est beaucoup de militaires. Et ils sont d'une humilité, mais c'est les mecs qui ont fait des choses dans leur vie quand tu discutes. Et même moi, pour certains, je suis admiratif. Ils sont des pilotes de chasse pour beaucoup, mais ils sont d'une humilité et d'une gentillesse. Et c'est ce que j'aime dans cette ambiance belge, c'est que retrouver un peu une ambiance escadron militaire, quoi. De gens sympas, de gens qui font bien leur boulot, mais qui sont pas à te raconter leur vie tous les 4 matins. Quoi.
Ouais,
et à Tahiti, j'en ai vu, hein, enfin, parce que j'ai connu qu'une expérience civile à Tahiti. Un mec qui a fait de la TR toute sa vie et il s'est posé 3 fois avec du vent. Ouais. Non, c'est rigolo, non, mais ça n'empêche pas que ça peut être un bon pilote. Mais... L'humilité, il a un peu oublié. Quoi.
L'ego des pilotes, en tout cas de certains, ouais, c'est quelque chose.
Tu peux rien y faire. On a beaucoup qui l'ont rêvé, ce métier, et une fois qu'ils sont en haut de l'échelle, ils pensent que ce sont les rois du monde. On n'est rien du tout.
Quoi. voilà, des chauffeurs de bus.
Ouais, non, mais on peut être fier de ce qu'on fait. Non, mais on fait des choses. C'est pas simple. Hein. Capitaine, copie, on fait des choses qui ne sont pas simples. Mais l'humilité, il ne faut pas l'oublier. Et en fait, l'armée nous met des baffes. Et je pense que des fois, dans le civil, il faudrait quelques baffes pour rappeler à certains qu'ils sont bien peu de choses. Non, j'exagère dans la façon de le décrire, mais ils n'ont jamais été confrontés. On leur a toujours dit oh, « c'est bien ». Et puis une fois qu'ils peuvent voler de leurs propres ailes, ils oublient vite ce que c'est d'apprendre, ce que c'est l'humilité, tout simplement.
C'est un beau message, savoir garder l'humilité.
Ouais, c'est ce qui manque, et l'ego. Quoi. Donc, alors peut-être que nous, notre ego a tellement été... satisfait avec l'armée, puisqu'on a fait tellement de choses exceptionnelles, que on se sent moins on a besoin de reconnaissance, puisqu'on l'a, tu vois, nous, au fond de nous-mêmes, on sait qu'on l'a fait, on sait qu'on s'est posé de nuit, on a fait la guerre, on sait qu'on s'est fait tirer dessus, enfin, tu vois, on a posé des avions dans des conditions, le pire des civils, il l'aura jamais fait, quoi, mais parce que ça faisait partie du job. Donc notre ego était quand même, je pense, nous, militaires, très... très bien alimenté, ce qui fait qu'on a moins besoin de se vanter qu'on s'est posé avec 15 de travers. Parce que ça ne nous intéresse pas. Quoi.
Ouais. Ça fait partie. Bon, bah, merci pour ce beau message, en tout cas.
Beau message, je sais pas, ça choquera peut-être certains, mais.
Bon, moi, en tout cas, ça me va. J'ai pas de recul pour. Si j'ai déjà rencontré beaucoup de gens comme ça, mais ça me parle déjà.
Ouais, non, c'est l'humilité qui prend.
Alors, on va tranquillement commencer la descente vers la fin de cet épisode. Après cette période enchantée de 7 ans, si je ne dis pas de bêtises, dans l'océan Pacifique.
Oui, début 2013, fin 2018. Ouais.
Ok, donc 5 ans plutôt, ouais, 5-6 ans.
17, okay. Ouais, 6 ans, ouais.
Du coup, après cette période, c'est le moment pour toi de retourner sur le vieux continent, en Europe, pour faire du Boeing 737 Cargo, comme Nicolas, invité de l'épisode 11, qui nous a d'ailleurs recommandé de te contacter pour le podcast. Et je tenais à te féliciter d'ailleurs pour ton récent passage commandant de bord. Bon, tu reviens à ta place voilà, de droit.
De droit, je sais pas, mais c'est là où je suis plus à l'aise en tout cas.
Ouais. On a déjà pas mal parlé de ce quotidien que vous partagez dans l'épisode 11. Donc je te propose qu'on revienne pas forcément trop là-dessus aujourd'hui. Par contre, j'aimerais savoir comment s'est passé le retour en métropole et est-ce qu'il y a des raisons particulières qui font que t'as pas poursuivi ta carrière dans le Pacifique ?
Oui, il y a deux raisons essentielles. Hein. J'ai pas forcément été très, très gentleman dans mon couple. Hein. J'ai pas été très droit sur ce coup-là. Et essentiellement, je voulais aussi évoluer dans mon job, ce qui n'était pas possible à Tahiti. Donc, Donc voilà, donc comme toute évolution n'était pas possible, si ce n'est repasser copie sur ATR, ça ne m'intéressait pas énormément. ATN ne recrutait pas. ATN, c'est Air Tahiti Nui, la compagnie sur 787 maintenant. Donc le seul échappatoire, c'était de nouveau de s'expatrier. Donc comme j'avais une QT737 à jour et que ASLB recrutait énormément, c'est ASLB qui m'a appelé immédiatement. Je suis revenu faire les recrutements en Europe. Ça a matché tout de suite et j'avais un tel besoin de pilote que les choses ont, entre l'envoi du CV en juillet et en novembre, j'étais chez eux, quoi. Donc il y a eu, pas, il y a eu peu de temps. Donc il y a eu deux raisons professionnelles et familiales qui ont fait que ce retour s'imposait.
Et est-ce que ça te manque parfois quand tu arrives sous ton gros avion dans la grisaille, sous la pluie est-ce que ça te manque de faire du King Air ou d'aller te poser à Wapo
Alors, le King Air ne me manque pas. Je dirais que c'est toujours compliqué. Hein. L'avion en lui-même ne me manque pas. Je voulais retourner dans un avion où je rentre debout dans le cockpit. Mmh. En revanche, le Twin Otter me manque. C'est vraiment un avion de cœur aussi, celui-là, avec le Transal. Mmh. Poser à Wapo, faire des posées exceptionnelles, oui. Mais oui, non, mais de toute façon, l'armée me manquera, une partie de la Polynésie me manquera. Là, je fais du Boeing, et puis quand j'en ferai plus, ça me manquera. Chaque aspect de ma carrière a amené énormément de positifs. Je ne referai plus après, donc oui, il y aura forcément un manque.
Mais on garde.
Voilà, après, ça reste des choix. Il n'y a rien eu de subi, donc c'est différent. C'est plus facile d'aborder les choses comme ça.
Ok. Alors, ça y est, l'épisode est presque fini, mais je peux pas te laisser repartir sans l'anecdote quand même, ou les anecdotes de fin d'épisode.
Donc, je m'attendais aux questions, tu préfères ça ou ça, et des trucs impossibles à répondre.
On a évité pour cette fois-ci.
On n'a pas le temps.
On préfère écouter des histoires de vol en Polynésie.
Ah non, mais les plus belles anecdotes, c'est des militaires, hein, ouais. Qui sont les plus... pars pour une mission et tu finis par avec une autre, hein. Ça c'est ce qu'il y a de plus. C'était une mission où on devait aller au Texas. Alors, on est parti via Berlin, on est monté à Reykjavik, ensuite c'était au mois de février, donc on est parti après par St. John's au Canada, Washington et ensuite le Texas. Donc autant dire que c'était au mois de février, on est parti avec blouson, pull, chaussettes, moon boot et tout ce que tu veux pour passer, parce qu'il faisait froid, hein, partout où on est passé, excepté le Texas. Où il faisait bon, mais c'était l'hiver, donc je ne sais pas qu'on ait souffert de la chaleur, on n'avait pas froid, mais mission très sympa, hein, on est tombé une fois en panne, deux fois en panne au début, on est resté à St. John's assez longtemps, donc on avait vraiment besoin de nos vêtements temps froid, hein. Comme on dit dans l'armée, on était parti avec la valise temps froid. Arrivé à El Paso, au Texas, évidemment, on a notre journée de repos, quand on revient à l'avion, l'amortisseur fuit, donc amortisseur qui fuit, dit changement d'amortisseur, dit... on peut pas faire ça à El Paso, évidemment. Faut faire venir une équipe de France. Enfin, ça commence à réfléchir dans tous les sens. Et ben, au final, on lui dit, ben, vous êtes limité à 40 tonnes au déco, donc vous pouvez mettre à peu près 6-7 tonnes de pétrole max dans l'avion, moins le fret, je sais plus. Vous pouvez pas mettre plus de 7 tonnes, je crois, dans l'avion. 6 tonnes. Donc, faites-nous un trajet et puis allez jusqu'en Martinique. Vous ferez des panneaux en Martinique à une équipe de piste Transal. Il y a un hangar, l'avion pourrait être mis sur vérin, changement d'amortisseur. Donc,
petit changement
de plan. Hein. Nous, on est très contents. Nous, dans l'armée, tu pars toujours pour 15 jours et tu reviens 6 semaines après. Mais nous, très contents, on nous dit créez votre trajet avec vos 6 tonnes de pétrole. Donc on optimise, on se fait en primo la Nouvelle-Orléans. Là, on se prévoit une nuit à la Nouvelle-Orléans pour dire profiter de l'escale. Ensuite, on fait Miami, dans le plan de venir, Miami-Nassau, aux Bahamas. Comme ça, on s'est dit, on va aller voir les Bahamas. Bon, et puis, c'était dans la route logique. Hein. Mais on aurait pu faire des nuits ailleurs. Et ensuite, on faisait Porto Rico et la Martinique. Donc ça, en 3 jours, très bien. L'état-major valide le plan de vol. Enfin, c'était, on avait fait un truc logique. Hein. Sympa, mais logique. Entre-temps, il y a la guerre qui éclate en Haïti. Donc, d'un seul coup, fallait évacuer, rapatrier. Enfin, l'armée française a mis tout en place un pont aérien sur Haïti. Donc là, le lendemain, le matin, au départ, c'était vous allez à ASAP en Martinique, puisque on a besoin de vous pour le pont aérien. Oui. Donc déjà, notre escale à la Nouvelle-Orléans, elle est passée
sous le nez.
Donc on s'est posé. Donc d'un parcours en 3 jours, on l'a fait en 2 jours. Donc, on a fait une nuit aux Bahamas uniquement. C'était rigolo parce qu'on s'est posé la nouvelle. Donc, on a changé nos plans. Hein, on s'est posé la Nouvelle-Orléans. Là, on a fait les pleins. On devait se poser à Miami, mais on a ouvert la carte Jepsen. On a vu qu'il y avait une penalty box. On n'était pas les meilleurs du monde en anglais. Donc,
On oublie.
On s'est dit, tiens, ouais, alors on s'est satellisé avec le Transal pour essayer d'aller à Nassau direct. Donc, on a fait rerouting en flight et puis on s'est posé aux Bahamas. Faut savoir qu'on n'avait pas les cartes non plus, puisque évidemment, on était parti avec les Jepsen Amérique du Nord, Europe du Nord, enfin tout ce que tu veux du Nord, mais on n'avait pas là du tout les
Jepsen. C'est pas l'iPad de... comme aujourd'hui où tu peux télécharger comme ça.
Non, 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 on avait notre sacoche et on n'avait pas pris tout ce qui était, ce qui était la zone Bahamas, Floride, Martinique. Donc c'est les gens de Martinique qui nous avaient faxé des photocopies à l'hôtel des Jepsen du coin, donc on peut pas me dire que c'était une qualité exceptionnelle. Bref, on arrive aux Bahamas. Aux Bahamas, c'est assez particulier aussi comme arrivée. Hein. C'est en plus un vendredi soir, donc t'as tous les VFR de Miami qui arrivent. Donc on t'annonce, vous voyez les 6 devant, t'es de nuit. Hein. Vous voyez 6 devant, vous reportez derrière numéro 7. Un Atis américain, les Bahamas, on en comprend la moitié, mais on se dit que c'est bon. On se pose, et là, d'un seul coup, à la radio, on se pose, et puis elle nous dit, va quitter immédiatement à droite. Là, on dit, on peut pas, il y a plein d'avions. Là, elle a compris qu'on s'était posé sur le seuil décalé, en fait. Ah. Nous aussi, on a vite compris, hein, puisque on s'est arrêté et qu'on a vu le chiffre 27, enfin, je sais plus quel
devant
service, on a compris qu'on avait fait une connerie. Alors, c'était un seuil temporaire décalé, donc toute la piste était éclairée. Donc, on s'est posé, en fait, sur le temporaire décalé. Bref, on s'est fait engueuler, mais ça s'est bien passé. Et puis après, fallait taxier sans avoir le plan du parking, enfin... Bon,
pas facile.
Ça sert à ça les follow me. Donc on a fini en Martinique, ils nous changent notre amortisseur et on arrive en Martinique avec notre valise en chaud. Il fait 30 degrés, donc la première chose qu'on a fait le matin du réveil, c'était aller au supermarché acheter un t-shirt, un short et des tongs. Et l'après-midi, on attaquait le pont aérien sur Haïti. Okay. Et voilà, donc tu pars pour un aller-retour à El Paso, tu finis en Haïti avec un gilet de combat, un casque et à faire des grandes pentes pour évacuer parce que c'est en train de se battre au sol. Et après, ensuite, un retour France assez épique, puisque je suis rentré en KC-135 via la Guadeloupe, la Cayenne, et j'ai mis 3 jours pour rentrer.
Ah oui, ok.
Mais bon, c'est les trajets simples. Voilà, ça, c'était une anecdote. Une autre mission, comme ça aussi, où rigolote, c'était qu'on partait à La Réunion, amener un Panthère, donc l'hélico. Hein. En fait, tu avais la tournée d'adieu du Fauche ou du Clémenceau, je ne sais plus lequel des deux. Et il était, donc il passait par La Réunion. Donc on lui a amené un hélico parce qu'il y avait changement d'hélico. Et là pareil, il s'est passé, donc on arrive à La Réunion, hein, tout se passe bien, on avait 3-4 jours de repos en plus puisqu'il fallait qu'il remonte l'hélico avant de savoir si on pouvait repartir. Et là pareil, passage un ouragan à Madagascar, donc on finit, on nous demande si on a du temps libre, on n'avait pas le choix, c'est pas qu'on n'avait pas le choix, on est très content, donc on a fini à Madagascar. À Antananarive avec du riz et tout ce qui allait bien pour les gens là-bas qui venaient de subir le cyclone. Arrivé là-bas, on nous demande, mais comme vous êtes là 2 jours, vous ne pourriez pas monter à Diego Suarez, au nord de Madagascar. Il y a une sauterie sur la Jeanne, donc Jeanne d'Arc, là, qui est le bateau école, hein, qui faisait des soirées lorsqu'elle arrivait dans ses escales. Donc, on a emmené des officiels de Tananarive à Diego Suarez pour faire le repas mondain sur la Jeanne. Et tu amènes du riz, tu emmènes des packs VIP pour aller faire une bouffe sur un bateau français. Quoi.
Ça sert vraiment à tout.
Les transférences du truc. Ah oui, t'es bon à tout. Hein. Et ensuite, retour sur Tana et ensuite La Réunion, l'hélico était bon. Et là, comme on avait une nuit... et là, tu vois qu'on est des truands, mais... Comme on avait une nuit aux Seychelles, le Transal, en rentrant de La Réunion, on faisait souvent une journée de repos aux Seychelles. Donc là, on était à appeler le loueur de jet ski à l'hôtel pour savoir à quelle heure il finissait, pour pouvoir calculer notre horaire de départ de La Réunion, en fait. Parce qu'il fallait qu'on arrive à l'hôtel avant que le loueur de jet ski se barre, si on voulait faire un petit tour de jet ski. Donc,
mais c'est important.
Voilà, mais tout ça dans une ambiance camaraderie.
Ouais.
Non, après, Tahiti, c'est différent, c'est moins de... C'est des petits vols, c'est tu finis au bord de l'eau, t'as des requins qui... tu peux aller voir les requins en tenue de vol, quoi.
Ouais.
C'est totalement différent, où le véhicule équipage à Pataki, on te donne 2 vélos, parce qu'il n'y a pas de véhicule. T'arrives pour dormir à Pataki, comme il n'y a pas de voiture, t'as 2 vélos qui t'attendent à l'escale et tu pars en vélo.
Il ne faut pas qu'il y ait un orage à ce moment-là.
Ah, ça fait partie des risques du métier à Tahiti, à Fou et Mélo. Ben voilà, c'était les grosses anecdotes sont surtout militaires.
Ouais.
Le reste, c'est des souvenirs d'instants magiques.
Merci beaucoup, David, pour être venu terminer cette discussion.
Ouais, on aura encore parlé pas mal. Hein.
Pourquoi pas un troisième épisode, full anecdote, une prochaine fois. Donc là, on a.
Alors que je réfléchisse.
Bon, on va te laisser un peu de temps alors. Donc là, on a parlé dans l'épisode 14, c'est ça, de ta carrière militaire. Aujourd'hui, c'est l'épisode 24 qui sort mi-janvier.
Bah, c'est bien, t'as trouvé. Non, mais c'est bien. Moi, je continue de te suivre sur la route hein, quand je pars au boulot. J'aime bien.
Les expériences
de chacun sont vraiment jeunes ou anciens. Chaque histoire est agréable à écouter.
C'est très sympa. Merci beaucoup. On essaye de choisir des invités intéressants comme toi, par exemple.
Ils le sont tous. Ils le sont tous. Chacun a sa part d'expérience et chaque chose est super sympa à entendre.
Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour aujourd'hui. Et puis j'espère que les auditeurs vont autant apprécier que moi cet épisode.
Je l'espère.
Bonne continuation et puis bon vol.
Eh ben, merci beaucoup. Ben, bon vol à toi aussi. Peut-être à très, très bientôt autour d'un café, si j'ai bien compris. Et puis,
Voilà. Peut-être, ouais. Allez, voilà, écoute, bonne journée. Salut.
À bientôt, Seb. Salut.
Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as passé un bon moment en écoutant cet épisode de l'expérience Shiban. Si c'est le cas, je te propose de nous suivre sur ta plateforme de podcast préférée, sur les réseaux sociaux, de nous mettre 5 étoiles et un commentaire gentil si le cœur t'en dit, et surtout, et c'est vachement important pour nous, n'hésite pas à parler de ce podcast autour de toi. Si tu apprécies notre travail, tu peux également nous soutenir financièrement. Cela nous permet de faire plein de choses. Découvrir nos frais, d'acquérir du matériel pour continuer à proposer du contenu toujours plus qualitatif, d'aller à la recherche d'invités toujours plus passionnants et d'explorer à l'avenir de nouveaux formats. Pour ce faire, tu peux t'abonner à notre Patreon pour un don mensuel avec des contreparties intéressantes pour toi ou nous faire un don ponctuel via PayPal. Les liens sont en description de l'épisode et sur notre site internet xpshiban.com. Allez, prends soin de toi et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle discussion pleine de passion.